Les mots de la culture, une émission proposée par Michel Théron.
Bonjour à tous. Eh bien, nous continuons notre enquête sur la culture générale à partir de mon ouvrage « Comprendre la culture générale » paru chez Ellipse à Paris et toujours disponible en librairie. Donc, où en sommes-nous ? Nous en sommes au chapitre 5 de cet ouvrage qui est intitulé « L'homme symbolique ». Nous avons vu la dernière fois que les constructions symboliques, cette notion est l'âme même de tout mon livre, les constructions symboliques permettaient une catharsis, c'est-à-dire une purgation des passions qui seraient désagréables à éprouver ou dommageables à éprouver dans la vie réelle. Donc, cela permet d'éviter la restriction mentale inhérente au processus général de culture, ainsi que les inhibitions et l'autorépression, justement, que toute culture nécessite. Nous avions parlé du livre de Julia Kristeva, « Pouvoir de l'horreur », où elle nous dit qu'il a été utile à Sade d'exprimer ses fantasmes si noirs qu'ils aient été. Cela a permis de les désamorcer, dont la verbalisation joue le rôle de substitution cathartique. Donc maintenant, je vais faire l'éloge paradoxal de la colère et surtout de l'expression de la colère. On nous dit que la colère est un péché capital, mais dans la Bible, Dieu lui-même se met en colère et l'homme est fait à l'image de Dieu. Hein. Alors que faut-il en penser ? La colère, me semble-t-il, est parfois un kit de survie, comme le jet d'encre de la seiche. C'est une réaction biologique normale. Il est absurde de la condamner. Je pense à ce que disait Zola à propos de la haine est sainte, vous voyez. Alors si on prend par exemple le problème des États-Unis, hein, le pays des sitcoms qui sont lisses la plupart du temps et ne dérangent en rien, hein, eh bien on voit qu'une colère appellerait le psy, hein, ou bien l'avocat. Mais je trouve que cela est tout à fait dommage et qu'il est parfois nécessaire, comme cette seiche, je le répète, qui échappe à son prédateur avec son jet d'encre noire, hein, il est nécessaire parfois de crier. Crier devant l'océan, par exemple. Hein. Donc, le premier mot de l'Iliade, qui est un texte fondateur pour la culture occidentale, c'est la colère. Il s'agit de la colère d'Achille. Ménine a aidé Théa, hein, chante ô déesse la colère d'Achille, vous voyez hein. Donc, dans l'Évangile lui-même, dans une version initiale du texte de Marc, on nous dit que Jésus se met en colère, s'étant mis en colère, lit-on. Hein, et c'est devenu après, dans le texte reçu, ému de compassion, vous voyez. La colère, orgé, hein, orgisteis, Jésus s'étant mis en colère, voilà, bon, et ça devient après splagnisteis, c'est-à-dire ému de compassion. Donc il y a là une euphémisation, à mon avis problématique, du phénomène. D'ailleurs, notez que lorsque Jésus chasse les marchands du temple, hein, eh bien, il se met bien en colère. Hein. Donc, l'expression « d'où Jésus ?» Autrefois, on disait toujours « d'où Jésus hein, ?»« d'où Jésus ?» Eh bien, c'est une expression qui ne vaut pas pour tous les cas de figure. Hein. Elle ne recouvre pas, cette expression, le personnage tout entier de Jésus. Je dirais que même il faudrait faire l'éloge de l'injure verbale. Alors, vous allez dire « pourquoi ?» hein, pourquoi ce n'est pas poli, etc. Parce que l'injure permet de ne pas passer à l'acte. Hein. Elle est parfois salutaire, l'injure. Lorsque deux automobilistes s'injurient, eh bien, il est mieux, à mon avis, de le faire que de se taper sur la figure, vous voyez. Hein. Et j'ai lu dans la presse un cas préoccupant, c'était trois enfants meurtriers d'une fillette en Norvège. Hein. Eh bien, ils n'avaient pas de langage ou qu'ils langage qui sert de lieutenance, il tient lieu, qui sert de relais, où ils n'avaient pas de mots, comme les injures, pour exprimer leur agressivité. Alors ils ont tué cette pauvre fillette. Alors, vous voyez que là, je me fais l'avocat du diable, si vous voulez, en défendant cette colère. Et bien, précisément, puisque nous en sommes au diable, eh bien, nous allons faire un petit peu l'anthropologie du diable. Alors, le diable est une construction symbolique, à mon avis, extrêmement utile. Hein. Il est utile d'y croire pour l'âme ou pour l'esprit. Malheureusement, il a été systématiquement démoli dans la conscience occidentale depuis le XVIe siècle. Pourtant, Luther, nous dit-on, avait jeté son encrier à la face du diable lui-même. Hein. Alors, au Moyen-Âge, lorsqu'un homme ne se possédait plus, lorsqu'il était pris de convulsions, lorsque sa bouche était écumante, etc., on disait qu'il était possédé par le diable, par le démon. Il était sous influence, travaillé ou détenu par une puissance étrangère. Il était énergumène. Alors, qu'est-ce que ça veut dire énergumène ? En grec, énergumenos, c'est-à-dire celui qui subit une possession, une influence extérieur à lui, vous voyez. Aujourd'hui, le mot énergumène s'est aplati et c'est dommage. Alors que faisait-on ? On appelait un exorciste hein, pour chasser cette influence. Mais aujourd'hui, alors, le médecin psychiatre remplacera l'exorciste. Hein. La possession s'appellera une psychose, par exemple schizophrénie ou autre. Hein. Et l'internement, un milieu psychiatrique a remplacé le vieux rituel de délivrance, qui était d'abord une contention physique hein, accompagnée de formules propitiatoires. Hein. Alors aujourd'hui, on interne. Hein, alors il y a eu d'abord la camisole, hein, et puis la camisole chimique, c'est-à-dire le fait d'abrutir de médicaments celui qui était possédé. Tout cela a remplacé les anciennes formules magiques, mais on n'a pas changé la chose en elle-même. Hein. Est-ce que le cerveau du schizophrène à l'autopsie est différent des autres cerveaux ? Alors, je ne suis pas médecin, je laisse les médecins se prononcer ici, mais je suis très dans une période de doute, un état de doute relativement à l'idée de progrès là-dessus. Hein. Et la barbarie elle-même n'a pas forcément changé. Alors, bien sûr, le bûcher, autrefois, brûlait les démoniaques, ceux qui étaient possédés par le diable. Hein. Et aujourd'hui, on a progressé, dit-on. Mais enfin, je ne suis pas sûr. Qu'est-ce qu'on va dire des douches, hein, ou bien des électrochocs, ou bien même des lobotomies, l'ablation d'une partie du cerveau. Donc, je dirais qu'il y a une barbarie psychiatrique que montre bien le film de Milos Forman, Vol au-dessus d'un nid de coucou. Hein, et finalement, bien sûr, on ne tue pas, mais on tue psychiquement, hein, par la lobotomie. Donc le bûcher, c'est une chose, la lobotomie, à mon avis, est tout aussi barbare. Voyez aussi le film de Ken Loach qui s'appelle « Family Life ». Voyez comment on traite justement cette fille schizophrène qui a été amenée à cet état de catatonie, c'est-à-dire d'immobilité pathologique par le contexte familial qui lui a été imposé. Hein. Je pense qu'en général, la psychiatrisation et en général même toute médicalisation systématique des problèmes des hommes les désinstitue en tant qu'êtres humains. Si je porte sur quelqu'un le diagnostic de folie, c'est parfois le meilleur moyen de l'éliminer ou de le tuer spirituellement, vous voyez. Alors mieux vaut parfois l'exposer à la justice et au châtiment judiciaire que de le décréter fou. Hein, vous voyez, par exemple, prenez « Crime et châtiment » de Dostoïevski. Si on avait décrété Raskolnikov, le meurtrier de la vieille usurière, irresponsable, il n'aurait plus eu de possibilité de rachat. Il aurait été désinstitué, une fois disparu ce miroir représentatif et structurant où il aurait pu se construire. Alors j'emprunte cette idée de miroir ou d'instance spéculaire à Pierre Legendre dans son livre « Dieu au miroir, essai sur l'institution des images ». Vous voyez ? Donc je dirais que les constructions symboliques, hein, comme le diable par exemple, sont garantes importante d'humanité. Et la médecine, dont on a bien sûr, attention, il faut être prudent, parfois évidemment besoin, hein, mais un courant danger, c'est de décréter justement que l'individu n'est plus libre, n'est plus responsable de ses actes. Alors pour revenir à la colère, l'enfant même sent en lui une brève folie. Hein, il y a des cas où le contrôle de soi est inopérant. L'enfant se sent prisonnier de forces intérieures qui sont incoercibles. Vous voyez, il écume lui aussi, il trépigne, il rugit. Et le caprice alors survient, et le caprice est comme une brève folie. Alors l'exorcisme, ça sera évidemment la gifle du père. Hein. C'est l'exorcisme inévitable. En fait, c'était autrefois, puisque maintenant il est interdit de donner la fessée aux enfants. Hein, depuis qu'une psychiatre, justement, l'a imposé à l'Assemblée nationale. Hein. Bon, là aussi, il y aurait peut-être beaucoup à dire. Alors, Sénèque nous dit que la colère est une brève folie. Ira furor brevis. Hein. Elle fait d'ailleurs bon marché, cette colère, de son propre intérêt. Hein. Elle est insoucieuse d'elle-même, pourvu qu'elle nuise à autrui. Sénèque le dit, sui negligens dum alteri noceat. Hein. Et finalement, le colérique est un peu comme, il est un peu comme ces abeilles qui laissent leur âme, leur vie dans la blessure. Animasque in ulnere ponunt, hein, dit Virgile à propos des abeilles. Donc la colère est désintéressée puisqu'elle va au-delà même de ses propres, de son propre intérêt. Et les anciens ont toujours considéré la folie comme un châtiment des dieux. C'est ce que disait le proverbe latin. Quos vult perdere prius dementat, c'est-à-dire la divinité rend fou ce qu'elle veut perdre. Alors sur la folie, je vous renvoie à l'histoire d'Ajax dans la tragédie de Sophocle qui montre assez ce pouvoir de la folie. Voilà, alors restons toujours sur le thème de la folie. Vous noterez qu'il y a toujours eu un lien entre la folie et les dieux, le contact des dieux ou le rapport avec eux. L'épilepsie, par exemple, était considérée comme une possession divine, avant qu'Hippocrate ne l'appelle la maladie prétendument divine, vous voyez. Et finalement, Hippocrate, c'est le début de notre modernité, hein, puisqu'il y a un doute jeté justement sur cette origine de la pathologie. Mais notez que ce n'est pas pour rien que Mnichkine, le héros de l'idiot de Dostoïevski, le prince Mnichkine, personnage christique, est précisément épileptique, vous voyez, hein. Donc, c'est cette dimension divine ou sacrée ou diabolique, comme vous voudrez, qui a été perdue à l'époque moderne. Aujourd'hui, si l'on s'avise de réclamer à un pasteur, peut-être même aussi à un prêtre, hein, parce que l'Église catholique de nos jours devient par main des côtés rationaliste et protestante, si on s'avise à demander à ses ministres du culte les services d'un exorciste, eh bien, il risque de nous adresser tout simplement à un psychiatre. Le diable aujourd'hui est au chômage, puisqu'on croit à l'hygiène, à la santé du corps et non pas au démon. Paul Valéry, dans Mon Faust, hein, dans son texte Mon Faust, montre le diable aujourd'hui comme un pauvre diable. Voilà, un pauvre diable qui est sans emploi. Il est au chômage. Hein, il est au chômage. Et pourtant, qui ne voit que cette construction symbolique du diable ou du démon, les récits ou les fictions qui lui donnent corps et s'en alimentent, tout cela est d'une extrême profondeur. Qui ne s'est jamais senti, une fois dans sa vie, un être double, vous voyez, homo duplex, comme on dit dans le latin. L'homme est double. Hein. Alors, vous voyez, les textes sont innombrables. Il y a par exemple Aurélia de Nerval, ou bien l'étrange histoire du Dr Jekyll et Mr Hyde de Stevenson, en passant par le Horla de Maupassant. Hein. Donc, les textes foisonnent, qui nous montrent que l'homme n'est pas toujours le maître dans sa propre maison. Il y a en nous un être autre que nous-mêmes, contre les sollicitations duquel, maintes fois, nous ne pouvons rien. Alors pour ce qui est des dates, le livre de Stevenson, Dr Jekyll et Mr Hyde, date de 1885, mais vous pouvez voir aussi dans la même fourchette chronologique, le livre d'Oscar Wilde, Le portrait de Dorian Gray, 1891, ou bien le livre de Bram Stoker qui s'appelle Dracula, qui est sorti en 1897. Ça fait un tir groupé, vous voyez. Ces trois romans sont réactionnels à l'idéologie et à l'attitude victorienne qui valorisait le self-control, qui était justement une civilisation pudibonde, hein, en habillé de petits pantalons, les jambes, comme on dit, l'ex hein, des tables, hein, par pudeur, vous hein, voyez. Bon, donc, cette Angleterre victorienne a suscité par réaction hein, ce type de roman. Alors, au XXe siècle, sur cette duplicité de l'homme, je vous renvoie au livre d'Italo Calvino qui s'appelle Le Vicomte pourfendu, le titre même indique bien la schise, la scission, hein, ou bien alors à la pièce de Sartre, Le diable et le bon Dieu, hein, et au cinéma, alors au film par exemple de David Fincher qui s'appelle Fight Club, vous voyez. Alors tout cela devrait nous inviter à la prudence et nous montrer les dangers ou l'inconscience qu'il y a dans une attitude systématiquement mélioriste relativement à l'histoire, à la vie politico-sociale, à la culture ou à la vie de l'esprit, etc. Vous voyez ? Donc, en général, nous sommes une civilisation de l'intervention. Nous voulons optimiser les choses, améliorer, intervenir à tout propos, en toute chose. Eh bien, cette attitude, elle est souvent bien naïve. Comme une attitude qui consisterait à dire que le Moyen-Âge, où l'on croyait au diable, était une époque archaïque. La nôtre, au contraire, où l'on croit au progrès scientifique, par exemple, serait enfin une époque civilisée. On entend dire souvent, par exemple, aux Monsieur Homé modernes, hein, qui sont légions, des phrases comme « Heureusement, nous ne sommes plus au Moyen-Âge ». Eh bien, je trouve qu'il n'y a rien de si sot qu'une telle phrase, qu'une telle formule. Prenez par exemple le cas de l'exécution de Gilles de Rais, le barbe bleue du Moyen-Âge, qui avait égorgé des dizaines d'enfants. Hein, vous voyez, c'était un compagnon de Jeanne d'Arc qui était très brave, courageux, qui a servi justement Jeanne jusqu'à sa mort, mais qui n'a pas pu supporter le séisme ou la jeter justement l'exécution de Jeanne. Et alors, ne pouvant être un monde qui brûlait les anges, si vous voulez, a fait de Gilles de Rais un démon. Vous voyez, on passe de l'angélisme au démoniaque. Alors, il a effectivement égorgé tous ses enfants dont je viens de parler. Eh bien, lors de l'exécution de Gilles de Rais, la foule entière a prié pour le salut de son âme, y compris les parents des petites victimes, comme le rapporte Huysmans dans un texte essentiel qui s'appelle « Là-bas ». Hein. Est-ce que c'était là une époque obscure ? Alors c'est vrai que Gilles de Rais a été livré au bras séculier pour qu'il meure physiquement, mais enfin, à cette époque, l'époque était si croyante qu'on pensait que le plus important c'était le salut de l'âme, que le corps meure, ma foi, c'était pas très important, mais pourvu que son âme n'aille pas en enfer, hein, eh bien, tout le monde a prié pour le salut de l'âme de Gilles de Rais, hein, y compris les parents des petites victimes. Est-ce que c'était là une époque obscure, vous voyez, hein? Et aujourd'hui, au contraire, regardez ce qui se passe dans les grandes villes. À Montpellier, par exemple, ou dans les grandes villes. Hein? La foule va passer de façon anonyme et indifférente, à côté d'un corps humain qui serait étendu sur le trottoir. On va dire, voilà encore un ivrogne, ou un clochard, ou un paresseux. Hein. On ne s'informe pas de savoir si ce n'est pas un passant qui a eu un malaise, une crise cardiaque ou autre, vous voyez. Hein. Alors, où est l'époque la plus barbare? Le Moyen-Âge ou notre époque, vous voyez? Jamais le Moyen-Âge n'a connu la barbarie ou a versé notre siècle. La barbarie stalinienne, par exemple, ne le cède en rien pour ce qui est de l'horreur à la barbarie nazie. Et le goulag n'est pas inférieur à Auschwitz. Hein. Et le XXe siècle, pourtant, était très cultivé, très civilisé, très rationaliste et très savant. Hein. L'Allemagne, par exemple, abondait en penseurs, en intellectuels. C'était le pays des Herr Doktor, Herr Professor. Monsieur le docteur, monsieur le professeur, ben, cela n'a pas empêché la venue du Wildermann, comme on dit en allemand, c'est-à-dire de l'homme sauvage. Et peut-être même cela l'a-t-il causé, car le positivisme qui prétend tout expliquer, c'est l'ignorance de l'essentiel. Jung disait « À force de nier le diable, nous avons ouvert toutes grandes les portes de l'enfer ». C'est une phrase impressionnante qui, à mon avis, est très juste. Hein. Et Nietzsche disait avant Jung « La plus grande ruse du diable est de nous faire croire qu'il n'existe pas ». Je vous renvoie aussi à des textes de Baudelaire dans les petits poèmes en prose, recueil qu'on appelle aussi souvent le spleen de Paris. Par exemple, le texte « Le mauvais vitrier » ou bien par exemple « Assommons les pauvres hein. ». Eh bien, le poète nous fait part de l'existence en lui des humeurs et des pulsions bizarres. Ces humeurs sont hystériques selon les médecins, dit Baudelaire, mais sataniques selon ceux qui pensent mieux que les médecins. C'est important, ça. Hein. Par exemple, il voit un pauvre dans la rue qui mendie. Hein. Eh bien, il y a en lui un démon qui le pousse à aller le frapper, vous voyez. Alors, ce démon, et Baudelaire, avec un humour noir extraordinaire, nous dit, ce démon n'était pas, pour moi, un démon prohibiteur, comme celui de Socrate, c'est-à-dire qui disait à Socrate ce qu'il ne fallait pas faire, mais un démon instigateur. Hein. Donc il se jette sur le mendiant et sur le pauvre, et il le frappe et au miracle, l'autre se redresse au lieu de se laisser faire et lui rend ses coups. Alors Baudelaire, le poète, conclut en disant « Je lui avais redonné la dignité, vous voyez, la dignité de se remettre debout. » Bon, alors tout cela pour vous dire qu'il y a en nous des pulsions absolument incohérentes, coercibles, hein, et qui parfois nous poussent à faire des gestes que la doxa, l'opinion sociale répandue, dit qu'elle relève de la folie, vous voyez. Alors, que signifie le diable? Le diable signifie l'erreur de l'intellectualisme. Il me semble que la signification anthropologique du diable, c'est l'insuffisance radicale des morales seulement intellectualistes ou qui font le plus grand crédit à la raison. Je pense aux paroles de Socrate dans le Gorgias de Platon, « Il suffit de bien juger pour bien faire » ou bien « Nul n'est méchant volontairement ». Oudeis et Con à Martaneille. Hein. Nul ne se trompe volontairement. Alors, ces phrases sont très belles, très très belles. Il y a un écho de cela, c'est un siècle plus tard, dans la parole de Jésus, je crois dans l'évangile de Luc, il me semble, à vérifier. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Eh bien, tout cela est très beau, hein, mais cela n'est pas évident. Cela n'est pas évident. À l'examen, ou mieux à l'expérience, on peut les critiquer, ces formules. Le diable enseigne et incarne l'idée que le mal ne vient pas d'un aveuglement ou d'une méconnaissance, mais bien d'une paralysie de la volonté ou bien d'une volonté radicalement mauvaise. Le mal, ce n'est pas seulement l'erreur, il est positif en quelque sorte. Alors, l'euphémisme que l'on emploie souvent aujourd'hui pour désigner le mal, comme le négatif, etc., nie cette dimension. Alors, notre Père s'achève par « délivre-nous du mal ». Est-ce qu'il s'agit livre-nous du mal ou du malin ? On ne le sait pas, puisque dans les manuscrits, les majuscules et les minuscules ne sont pas différenciés. Il n'y a que des onciales. Dans les manuscrits anciens, il n'y a que des majuscules. Hein. Bon, alors, mettons que Topo Nero, par exemple, ça soit le diable. Hein, voilà. Le mal a donc une grandeur, une envergure qu'il a perdue. Hein. Premièrement, paralysie de la volonté. Voici comment Racine traduit saint Paul. Hein. Je veux et n'accomplis jamais, je veux mais ô misère extrême, je ne fais pas le mal que j'aime et je fais le bien que je hais. Pardon, je ne fais pas le bien que j'aime, vous voyez, lapsus, c'est le diable qui me travaille. Hein. Je répète, je veux et n'accomplis jamais, je veux mais ô misère extrême, je ne fais pas le bien que j'aime et je fais le mal que je hais. On peut voir où est le bien, mais on fait le mal par faiblesse, par paralysie. Et ça, c'est une idée qui était antique aussi. Par exemple, Sénèque, dans sa pièce sur Phèdre, fait dire à Phèdre « Video meliora proboque, sed deteriora facio ». Je vois ce qui est meilleur pour moi, je vois le bien, hein, mais je fais le mal. Et toute la position de Phèdre est résumée ici, et tout le jansénisme aussi, la paralysie de la volonté. Dans le film de Bresson, Le Diable probablement, si vous avez l'occasion de le voir, courez le voir, il passe très rarement hein, à la télévision par exemple, c'est un film magnifique, hein. On a le dialogue suivant, qui donc nous manœuvre en douce, et la réponse c'est le diable probablement, vous voyez. Et alors, non seulement le diable est ou le mal sont une paralysie de la volonté, mais ensuite, ils deviennent une volonté mauvaise, volontaire. On peut voir hein, qu'une chose est mauvaise et on peut l'accomplir sciemment, volontairement. Voyez la chose dans le sadisme, hein. Voyez ce que dit Racine dans Britannicus, hein. « Mais je mettrai ma joie à le désespérer, je me fais de sa peine une image charmante, j'aimais jusqu'à ses pleurs que je faisais couler. » Je ris parce que je me dis que ça pourrait être parfois la devise de certains examinateurs aux examens. Hein. « Je me fais de sa peine une image charmante, mais je mettrai ma joie à le désespérer. » Bon, redevenons sérieux, hein. On peut très bien vouloir faire du mal volontairement, hein. J'aimais jusqu'à ces pleurs que je faisais couler. Et voyez ce que dit Baudelaire un peu plus tard, hein, dans Leoton Timoroumenos, c'est-à-dire le bourreau de soi-même, hein, dans Les Fleurs du Mal, un phare ironique infernal, flambeau des grâces sataniques, soulagement et gloire unique, la conscience dans le mal, vous voyez. Donc des hommes comme Dostoïevski ou Proust ont bien exploré ces domaines maudits et réellement existants. Et ces domaines vont même de pair avec ce qu'on pense parfois être le monde de la culture, avec le sentimentalisme, l'attendrissement. Le démoniaque, je dirais, coexiste, cohabite avec le reste, chez l'homme par ailleurs dit normal, conforme, socialement inséré. Par exemple, les bourreaux, les tortionnaires sont souvent sentimentaux. C'est un paradoxe, mais il existe. Ce sont des bons pères de famille, ils aiment les enfants. Hitler, par exemple, aimait les enfants, il faisait photographier avec des enfants. Hein. Vous voyez donc le sentimentalisme, parfois, justement, coexiste avec la pire des choses. Et le lieutenant d'Hitler, Himmler, détestait les corridas, dont nous avons parlé lors d'une émission précédente pour les défendre en tant que rituel symbolique. Hein. Il détestait les corridas au point de s'y évanouir. Il s'est évanoui lors d'une corrida qu'il avait vue dans les années 30 en Espagne, avant la dernière guerre. Hein. Le commandant d'Auschwitz, eh bien, le soir, il arrosait ses géraniums une fois sa journée finie, vous voyez. Et les orchestres nazis jouaient dans les camps, jouaient de la musique. D'où le livre de Pascal Quignard, La haine de la musique. Donc, il faut voir l'être humain comme de façon complète. Hein. Proust, par exemple, n'est pas que le célébrant des aubépines, des lilas, des petites madeleines, etc. Il est aussi l'explorateur des gouffres, hein, l'explorateur du sadisme, du démoniaque, hein, ou comme disent les Allemands, du démonique. Vous voyez, par exemple, vous avez du voyeurisme. vampirisme et même de la nécrophilie dans Albertine endormie. Pourquoi ? Parce que le narrateur prend plaisir à jouir d'Albertine lorsqu'elle dort, en quelque sorte. Hein. Donc, nécrophilie, ça veut dire aimer un cadavre. C'est vrai que le sommeil étant l'image de la mort, hein, somnus est quasi mortis imago, comme on disait en latin, eh bien, Albertine est possédée en étant endormie par le narrateur, parce que quand elle est vivante, elle résiste à son instinct de possession, qui est un instinct de prédation, vous voyez. Alors, voyeurisme, nécrophilie, bon, vous voyez les belles endormies de Kawabata, par exemple, hein. Tout cela existe à côté des petites fleurs et du parfum, etc., du parfum printanier. Et Georges Bataille, dans La littérature et le mal, consacre un chapitre précisément à Proust. On ne s'attendrait pas à le voir, justement, dans un livre consacré au mal. Voilà, eh bien, nous allons nous arrêter maintenant ici. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour continuer d'explorer ces gouffres de l'âme humaine. Au revoir à tous.
Retrouvez Michel Théron sur son blog www.michel-théron.fr.